Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 10 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
C'est intéressant comme petit fait, vous voyez. peut-être quelque chose d'intéressant à voir. À ce moment-là, la faculté de théologie s'est posé le problème. Peut-on accepter une thèse en théologie si la méthode est parfaitement appliquée et qu'on aboutit à une conclusion que l'Église condamne ? C'était discuté. Alors que pour moi, c'est hors de discussion. Parce que la méthode n'est pas un absolu. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est terrible en philosophie. C'est qu'on regarde plus la méthode que la vérité. La méthode est logique. Donc c'est la logique qui détermine tout. Une thèse peut être logique et peut être fausse. Elle est fidèle à la méthode, mais elle est fausse par rapport à l'homme. Et tout est là, vous voyez. Si vous comprenez bien ça, jusqu'au bout. C'est pour ça que la philosophie aujourd'hui est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas répondre à l'homophilie sans un point de vue philosophique, sans le point de vue de l'amour. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que c'est par des exemples que vous comprenez le mieux. Puis après, on va regarder le principe. C'était à Fribourg. C'est tout la guerre. Je suis arrivé à Fribourg. Après, je venais d'arriver. Alors c'était, vous voyez, l'exubérance, peu de temps après, de ce que pouvaient représenter les jeunes du maquis. Et il y avait un jeune du maquis, un type épatant, qui s'était mis le grade de général. Général du maquis. Il avait 30 ans, à peine. 28 ans, je crois. Un type d'une excellente famille. Ça faisait pas mal. Général du maquis. Alors après le maquis, vous comprenez, victorieux du maquis. En temps de paix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Général du maquis. Alors, c'était un don jouant de premier ordre. Quand il passait, après 8 jours, il y avait des victimes. Et il continuait son parcours. Comme il connaissait très bien sa sœur, il s'était marié avec un Suisse. Elle était française et lui aussi. Elle m'avait dit, écoutez, il vous aime beaucoup. Vous êtes le seul à pouvoir lui parler. Quand même, ne pas exagérer. Vous me donnez une charge assez difficile à faire. Non, faites-le, je vous en supplie, faites-le. Faites-le comprendre que c'est pas bien de sa part de faire ça. Il était d'une générosité étonnante au maquis, tout le monde l'a reconnu. C'était le héros du maquis, et c'est vrai. Parce qu'il ne comptait pas avec sa générosité, il ne comptait pas avec sa vie. Il a risqué sa vie, je ne sais pas combien de fois. Il s'en fichait un peu. Le héros, oui, panache. Mais pour la vie courante, c'est pas commode. Alors on se bat autrement, sur un autre terrain. On passe de l'irascible au concupiscible. Alors, c'était les victoires et les défaites, vous comprenez bien. Alors, je pris mon courage à deux mains. Je l'aime beaucoup, du reste, c'était facile. Je dis que c'était pas digne de lui. Alors, il m'a regardé. Il m'a dit, bon, vous n'y connaissez rien. Argument ad hominem, évidemment. Alors, je me suis fâché. Vous croyez que je n'y connais rien en amour? C'est vous qui n'y connaissez rien. Puis alors, à ce moment-là, je l'ai pris. Vous n'y connaissez rien. C'est la pure jouissance que vous cherchez. Et vous croyez que c'est l'amour. Vous faites une confusion terrible. Toute ma vie est orientée vers l'amour. Et vous croyez que l'amour divin ne fait pas connaître l'amour humain. Et vous croyez que quand on connaît profondément, Jésus, Marie, on ne connaît pas ce que c'est que l'homme et la femme. Ça serait triste. Alors, après, il me dit, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et aucun curé n'ose me parler comme ça. Je dis, mais oui, parce qu'ils vous connaissent mal, et puis ils vous voient de loin, moi. Je vous vois de près, je vous aime. C'est ça, voyez. La sincérité, c'est regarder l'amour dans son intentionnalité, dans son immanence. Quand je dis l'intentionnalité, c'est pour distinguer l'amour de ce qui est la réalité. Le corps n'est pas une réalité intentionnelle. C'est une réalité physique et réelle. Alors, dans l'intentionnalité, je reste dans la sincérité. Je ne vois que la sincérité. J'aime, puisque l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Tout est permis dans l'amour. Et le corps est uniquement manifestation d'amour. Et le corps est fait uniquement pour manifester l'amour. Vision de l'immanence du vécu qui prime l'être. Je ne suis plus dans le réel. Je suis dans l'intentionnalité. Et je suis moi-même juge de mon propre amour. Et si l'autre est consentant, nous sommes deux dans l'intersubjectivité. Et l'intersubjectivité ne me fait pas sortir de l'immanence. Puisque tous les deux sont dans l'immanence. Et au nom de cette intersubjectivité, je peux tout me permettre. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, très bien. Tout va bien. La vérité, c'est quoi? La vérité par rapport à moi-même. J'ai une âme spirituelle et j'ai un corps. Si je vais très loin en philosophie, et je commence d'abord par là, je sais que mon âme est créée par Dieu. Et ça, philosophiquement, je peux le démontrer. Et que mon corps, il vient de mes parents. Et qu'il y a tout un atavisme. Il a été formé par mes parents. Et je dépends d'eux dans la mesure où mon âme n'arrive pas à dominer suffisamment mon corps. Et si mon âme ne domine jamais mon corps, je resterai toujours en dépendance de mes parents. Ce qui arrive chez les handicapés. Leur âme spirituelle n'arrive pas à émerger. Et on les respecte infiniment parce qu'ils sont comme des enfants et des petits innocents. Et qu'ils sont à la merci de tout. Et il faut voir l'amour d'une mère vis-à-vis d'un petit handicapé. Moi, ça me bouleverse quand l'enfant grandit et qu'il reste relatif à sa mère et qu'il reste souvent d'une affectivité extraordinaire, prodigieuse, et que la mère porte ça avec un très grand amour. Et l'enfant reste relatif à la mère. Normalement, il arrive un âge où l'âme spirituelle arrive à émerger et à comprendre que l'acte humain est un acte volontaire et ce n'est pas un acte instinctif. Les anciens parlaient l'âme instinctive, le fricare barbam. J'aime beaucoup ça, vous voyez, le fricare barbam. On caresse sa barbe. Alors, c'est un geste instinctif de se récarrer barbe. C'est pour ça qu'on s'est rasé maintenant pour que le fricaré barbum disparaisse. Alors, il y a d'autres gestes instinctifs. Un acte humain est un acte volontaire qui relève de la volonté. Et l'amour d'amitié est un amour spirituel. On aime l'autre pour lui-même. Tandis que dans l'amour passionnel, je recherche l'autre pour moi. Ça, c'est le signe de la passion. Je veux avoir ma proie. On le dit pas, hein, mais au fond, c'est ça. Il est le seul être qui me donne un peu de joie, un peu de jouissance. C'est l'amour d'amitié au niveau de la jouissance. En Grèce, on distingue trois niveaux d'amour d'amitié. L'amour d'amitié, proprement dit, on aime l'autre pour l'autre. L'amour d'amitié de jouissance, on aime l'autre parce qu'il développe ma sensibilité, mes passions, mes instincts. Alors, je l'aime dans ma sensibilité et dans une jouissance passionnelle. Mais en réalité, je ne l'aime pas. Mais il y a réciprocité. L'ami me donne cette jouissance et je donne cette jouissance à l'ami. Alors il y a réciprocité de jouissance. Et puis il y a l'amour utilitaire, le fort en thème et le fort en version. Pour les examens, c'est merveilleux. On s'aide comme ça. Il n'y a pas que les examens, toute la vie. L'un est mécanicien de premier ordre. Chaque fois qu'on a une panne, on n'a qu'à lui demander. Il écoute, comme faisait un petit mécanicien italien que j'admirais, en étant en panne tout près d'Assise. Il dit, faites marcher le moteur. Les autistes, ouvrez un peu le capot. Marcher le moteur. Ah oui, c'est ça qui marche plus. Bon médecin. Et c'était juste ça. Oui, ça c'est le mécano sensible. T'as tout de suite compris? Oui, puisque les mécaniciens italiens sont Maxime étalé. Français sont trop ordonnés. Alors eux ouvrent d'abord le capot, puis regardent. Alors vous voyez, c'est par le mouvement, tandis que c'est par le son. C'est beaucoup plus calé. Hein. Alors, l'amour d'amitié utilitaire, ayez un ami italien mécanicien. Un mécano, aimez un Français. Rhéteur. Bon, les Italiens sont des avocats remarquables, mais il y a aussi des Français qui sont des avocats remarquables. Très grands avocats. Rhéteur. Oui, on cherche ce en quoi chaque pays domine. Et on se fait l'Europe. Comme ça, on a la clé de voûte et on tient. La véritable amitié, c'est aimer l'autre pour lui-même, en tant que personne humaine. Donc, c'est un amour spirituel. Oui, là, je suis au-dessus du point de vue moral. Je suis d'un point de vue humain, dans le sens le plus profond, c'est le fondement de la morale. Je cherche le bonheur. Qu'est-ce qui va me permettre d'être parfaitement moi-même? C'est découvrir mon bonheur. Et c'est donc une amitié spirituelle. Pour qu'une amitié soit spirituelle, il faut que la passion soit dépassée. Il faut que la passion soit au service du comprenez qu'à partir de là, je comprends que quand je dis l'amour à sa propre mesure en lui-même, saint Bernard dit ça à propos de l'Esprit Saint, à propos de l'amour divin, à propos de la charité. C'est comme la fameuse parole de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». On la prend en dehors du contexte, et alors on lui fait dire n'importe quoi. Parce que c'est pas ça du tout que ça veut dire. « Aime et fais ce que tu veux ». D'abord, l'amour humain s'acquiert. C'est pas instinctif. Il faut éduquer son amour spirituel. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on l'a jamais éduqué. Alors il faut l'auto-éducation. Et c'est ce qu'il y a de très grand dans l'amitié, c'est qu'on s'éduque. Dans une véritable amitié, on s'éduque. Et on s'éduque mutuellement. Et loyalement. Et l'ami peut tout dire à son ami. Tandis que quelqu'un qui n'est pas l'ami ne peut pas le dire. Donc, comprenez, c'est l'ami qui est le critère de l'amour d'amitié. C'est pas l'amour. C'est l'ami. Et donc, il faut que l'amour intentionnel, spirituel, soit dépassé pour rejoindre l'ami. Et l'ami, je respecte son corps et j'aime son âme. Et par son âme, j'aime son corps. J'aime sa sensibilité. Mais c'est par l'âme. Et toujours tout est relatif à l'âme. Tandis que dans l'homophilie, on reste dans l'immanence. Et on ne regarde le corps que comme un instrument, une manifestation d'amour. Or, le corps est-il uniquement manifestation d'amour? Non. C'est bien simple. Puisque le corps manifeste l'amour, c'est vrai, la main donne la caresse. Mais la main aussi sert pour commander. La douceur n'est vraie que quand elle implique la force. Autrement, ça devient mièvre. Et c'est ce qui est dit dans l'Écriture. L'Esprit Saint agit fortitaire et suavitaire. Celui qui ne reconnaît l'Esprit Saint que dans le suavitaire, je crains que ce soit de l'ontologisme. Projeté sur le divin, uniquement le vécu dans la douceur, et on ne reconnaît Dieu que dans la douceur. L'amour est au-dessus de la douceur et de la force. L'amour est au-dessus de la présence et de l'absence. Il faut bien comprendre cette auto-éducation de l'amour. Pour arriver à aimer l'autre pour ce qu'il a de meilleur en lui, son âme spirituelle, au point de vue philosophique, au point de vue divin, son lien avec le Père, son lien divin. Alors vous voyez, tout de suite, respecter le corps humain et non pas faire du corps humain uniquement un instrument qui me donne de la jouissance. Il n'est pas fait pour ça. Parce que la jouissance n'est pas l'amour. La jouissance reste tournée vers le sujet qui aime. La jouissance, pour nous, est presque toujours passionnelle. Sensible et passionnelle. Et la jouissance, quand elle est cherchée pour elle-même, est le plus grand obstacle à l'amour spirituel. reste un enfant gâté. Alors s'il n'a pas son biberon aux heures dites, ça va plus. Il est un enfant gâté. Il crie toute la journée tant qu'il n'a pas le biberon. C'est ça un enfant gâté. Il reste à ce stade de l'enfant nourri par sa mère. Il reste tourné et il vit autour de son biberon. Alors le biberon prend des couleurs différentes, mais c'est toujours le biberon. On cherche la jouissance. Parce que l'enfant, il aime le biberon, parce que ça lui est agréable, c'est normal. Mais à un moment donné, on lui fera comprendre que se nourrir, c'est pas uniquement prendre des petits plats qui nous agréent. On sera bien obligé de temps en temps de prendre la nourriture tout simplement pour se nourrir, pour permettre à mon corps de résister aux fatigues et de faire son devoir d'état, ce qu'il doit faire. Alors, l'amour consiste à respecter le corps de l'autre. Et regardez, quelle est la finalité de ce corps ? Et non pas ramener le corps uniquement à, pour moi-même, un objet d'amour, un instrument d'amour, un instrument de jouissance. C'est plus juste. Je crois que tout est là, vous voyez. Alors si vous creusez un tout petit peu, vous voyez bien que l'instinct sexuel n'est pas fait premièrement pour la jouissance. Il est fait pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il est fait pour, de fait, la procréation. Dans un jugement de sagesse. Et le don des corps dans le mariage est premièrement pour l'amour, mais un amour qui implique la fécondité. Et donc, qui n'est jamais fermé à la fécondité. Séparer l'amour, don des corps, de la fécondité, c'est une séparation que je fais, moi, pour jouir, sans porter la responsabilité des conséquences. Je ne porte plus la responsabilité de mon don. Et quand je ne porte plus la responsabilité de mon don, très vite, on perd le sens profond de sa finalité. Puisque c'est la finalité qui est source de responsabilité. C'est l'amour qui est source de responsabilité par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Je comprends très bien que quand on raisonne uniquement au niveau de l'amour et dans l'immanence de l'amour, c'est-à-dire dans la sincérité, il n'y a pas d'issue. Vous savez ce petit livre qui est paru il y a quelques années, Morale sans péché, Dénard, c'est ça exactement. C'était au niveau, évidemment, très freudien. Mais on vous a demandé qu'il n'y a pas de péché, si on est sincère. Alors on se fait Dieu, mais on ne l'est pas. Parce qu'on se fait mesure de toute chose. L'homme mesure de toute chose. Il ne respecte même pas l'autre, parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Alors je crois que c'est cela qu'on doit essayer de creuser, vous voyez. Ils disent, je cherche, je vous donne une piste de recherche pour bien comprendre. Alors évidemment, il y a le point de vue moral, c'est sûr. Pour quelqu'un qui vient au point de vue moral, on dira ça dans la première éducation, on dira ça. Mais ce que je reproche à l'éducation classique, qui date du XVIIe siècle, c'est pas vieux, c'est d'être une éducation trop moralisante. C'est-à-dire une éducation qui regarde que la vertu, c'est une éducation stoïcienne. L'éducation chrétienne est une éducation qui regarde l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et c'est l'éducation de l'amour qu'il faut. Et je crois qu'on est obligé de le faire aujourd'hui. Mais alors reconnaître qu'en nous, il y a des niveaux différents de l'amour. Mais dans ce petit dialogue, je me souviens que j'ai fait avec un ami ce petit livre au cœur de l'amour. Eh bien, c'était tout le temps cela qui revenait. Ce cher ami avait interrogé une centaine de garçons, de jeunes, garçons et filles, pour voir comment se situait pour eux le problème de l'amour. Ça revenait toujours un peu les mêmes problèmes. J'aurais aimé, on l'a pas fait, c'est toujours très délicat ça, mais qu'il faudrait un dialogue une fois, mais très poussé au point de vue philosophique. Bon, on sera obligé de le faire. Sur l'homophilie. On sera obligé de le faire. Parce qu'on ne peut pas résoudre le problème uniquement par le point de vue moral. Il faut le résoudre beaucoup plus profondément. Et voyez, le sida, aujourd'hui, nous oblige d'aller beaucoup plus loin. En comprenant qu'il ne faut surtout pas moraliser le sida. Parce qu'on sait très bien. Tous ceux qui ont eu des prises de... qui ont eu, par des raisons médicales, reçu du sang qui n'était plus le leur. Puisque le sang symbolise de l'âme. Vous voyez ? C'est quand même très significatif, ça. Transmet des choses difficiles. Maintenant, on peut, mais il y a quelques années, on ne le faisait pas. Discerner, si. On sera obligé de voir, et très profondément, qu'est-ce que c'est qu'un don personnel à l'autre. On donne ce qui est de nous. Donner ce qui n'est pas de nous, on dira dans le langage courant, c'est un don empoisonné. Parce qu'il peut y avoir dedans une bombe. Vous savez, quand on vient d'Amérique, l'Amérique demande déjà depuis quelques années, est-ce que vous avez reçu un bagage qui n'était pas de vous ? Est-ce que ce sont bien vos bagages et vous avez ce qu'il y a dedans ? Est-ce que vous avez reçu un petit paquet pour un ami étranger, on vous a remis ça ? C'est peut-être un petit paquet empoisonné, on ne dit pas ça, mais c'est ça que ça veut dire. Vous savez pas ce qu'il y a dedans ? Or, on est maître de quoi ? Pour le donner. Est-ce qu'on est maître de son corps ? On l'a reçu, notre corps. Moi, j'aimerais mieux, je sais pas, quoi. Non, je sais pas, ce désir-là, là. Je peux pas le dire. Mais quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, comme on dit, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, ça se voit, hélas. Alors, ils essaient de réparer ça chirurgicalement. Ouh là 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 là. C'était effrayant. Mais on, j'ai vu ça. C'était, on le voit, ces choses-là. Des garçons, des filles qui sont mal dans leur peau. Pourquoi ? Parce que mais leur corps leur appartient pas. Est-ce que votre corps vous appartient ? Pas si mon corps m'appartenait, jamais de maladie, hein ? Non. Ah, jamais de peste des oreilles, jamais de peste de la vue, jamais. Porter des lunettes, c'est terriblement humiliant. C'est idiot de porter des lunettes. Et des tas de choses comme ça. Première fois de porter des lunettes. Si on était un sportif, c'était très gênant. Voyez, notre corps et notre aide ne nous appartient pas. Alors voyez, derrière tout ça, c'est qu'il y a une terrible idéologie athée de laïcisation. Alors évidemment, si je considère que ça n'a aucune importance, juste mon corps comme de l'autre comme je m'en veux, ça vous appartient, ça m'est égal. Si je prends sans que je sois vu, c'est l'essentiel. Alors à ce moment-là, tout est permis. Et ça terminera par la page qui sera à côté de vous et qui dira laisse-moi la place. Et dire mais j'ai bien droit aussi. Alors la guerre sera ça. Le garçon qui crache cette pauvre femme. Signal d'alarme, voyez, de l'humanité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'appartient ? L'acte volontaire. Et ce que je donne, c'est mon amour. Alors oui, mon amour spirituel, il m'appartient. Mon amour passionnel, est-ce que je peux le donner ? Réfléchissez là-dessus. On a tous eu quand même une petite expérience de passion. Puisqu'il y a en nous un terrain volcanique. Alors il y a la passion de 15 ans. Quelquefois, on ne l'a pas. On a été trop bien éduqué. Alors on n'a pas la passion de 15 ans. C'est dommage. Parce qu'il y a une expérience qui est ratée. C'est dommage. Alors on a été enveloppé de coton, trop préservé. Enveloppé de coton, on n'a pas eu ça. Il y a l'expérience volcanique de 18 ans. 18 ans, on devient un peu libre. Et puis avec le conseil des psychanalystes que je connais, de temps en temps, pas tous, hein, mais certains psychiatres, ayez votre chambre, tranquille, seul, quittez vos parents, parce que vos parents, c'est... Bon, alors on quitte le cocon. Maternelle et paternelle. Puis on a sa petite chambre, l'expérience de 18 ans. Il faut l'expérience. L'expérience, c'est tout. Mais il y a des expériences d'hommes qui sont dangereuses. On avale du poison. Et quelquefois, on ne peut pas remettre. Et aujourd'hui, on voit très bien. Au Brésil, quand j'y étais, au Brésil, les garçons et les filles, jusque 10 ans, ça allait. À partir de 10 ans, c'est fichu. On s'en sert. Pour vendre tous les produits qu'on désire aujourd'hui. Des enfants de 10 ans, on utilise les enfants de 10 ans. On n'a plus aucun sens du respect de ce qui ne nous appartient pas. Ça a commencé par le travail et ça se termine de cette manière-là, par le corps humain. C'est pire que l'esclavage, vous savez, c'est pire que l'esclavage. On est arrivé à un degré de terrible. Et je crois que c'est ça, c'est qu'on n'a pas le sens que notre corps nous est prêté. Il n'appartient pas à notre corps. J'en fais pas ce que je veux. Donc je ne peux le donner que ce pourquoi il est fait. Puisqu'il ne m'appartient pas. Je n'en fais pas ce que je veux. Oui, alors, derrière tout ça, il y a, au fond, une mise entre parenthèses de la création de l'âme. On ne sait plus ce que c'est que la création de notre âme. On méconnaît notre âme. Si on méconnaît notre âme, notre corps devient l'absolu. Une idolâtrie du corps. Voyez, l'Empire romain a chuté à cause de l'idolâtrie du corps. Je me demande si tout le point de vue chrétien, toute la culture chrétienne, tout le patrimoine chrétien ne va pas être dilapidé par l'idolâtrie du corps. Parce qu'on est dans l'ère de l'idolâtrie du corps. Vous voyez, les Jeux olympiques, je n'ai rien contre. C'est très beau, c'est très bien. Mais les Jeux olympiques deviennent la grande histoire. C'est extraordinaire. La fête du monde entier. Les Jeux olympiques. Le petit bonhomme, c'est passé à Lyon, ça. L'homme, second dans le ski de grande course super. Le premier est un Autrichien, mais de mère française. Et le second a été un Français, non pas de père autrichien. Et c'est un petit bonhomme, il a 20 ans, 21 ans. Tous les jours, il va communier. Et le matin de la course, il a été communié, évidemment. Les journalistes l'ont vu. Alors, on lui a demandé, « Ah, vous avez été communié pour que la course de l'après-midi aille bien. » Il les a regardés, « Mais vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. On ne va pas communier pour ça. » Alors, vous avez été communié pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui se donne à nous. C'est parce que je l'aime et qu'il m'aime. Le sport n'a rien à voir avec ça. Ah, j'ai remercié Jésus après. Et je n'ai pas demandé de m'aider. Parce que le sport, c'est lui qui me demande d'être un sportif. Il faut que j'acquière ça. Et j'ai acquis ça. Et je l'offre au Seigneur. Ça m'appartient dans la mesure où c'est un avoir, mais mon corps, je pourrais tomber malade, je pourrais pas le, j'aurais pu avoir un accident. Et il a ajouté, j'aurais pu être premier. Il était très lucide, il dit, j'ai vu l'instant où, de fait, j'ai raté, j'ai pas été premier, c'est une lucidité, j'ai pas vu, j'aurais aimé le voir. Et c'était le lendemain, ça. Donc, c'est pas passé par 36 bouches. Évidemment, c'est pas ça qui se met dans les journaux. Hein. C'est un témoignage merveilleux, ça. Vous voyez ? Alors là, on distingue bien le sport et l'amour. Et on ne mêle pas les deux. Et là, il n'y a pas idolâtrie du corps. Il y a idolâtrie du corps quand on est dans l'immanence absolue. Vous voyez ? Cette philosophie, c'est pour ça que je suis peut-être terrible contre les idéologies athées. C'est parce que les idéologies athées vont amener un suicide généralisé du monde. Ça ne peut pas être autrement. Il faut être quand même un peu lucide. L'idolâtrie du corps amène ça. Ça ne peut pas amener autrement. Parce qu'on met l'absolu là où il n'est pas. Et notre corps n'est pas l'absolu. Notre corps est un chef-d'œuvre de Dieu. C'est un chef-d'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas l'absolu. Il est pour l'âme. Dans la vision de Dieu. Et dans la vision du philosophe. Un vrai philosophe doit reconnaître que le corps est pour l'âme. Et donc, si le corps devient un obstacle qui arrête le développement de l'âme, mon corps devient nuisible. Il ne faut pas se suicider à cause de ça. Il faut tout simplement l'éduquer. Mon corps, il est éducable. Comme il y a un terrain volcanique en moi, la passion. Passion de 15 ans, 18 ans. Passion de 35 ans. Passion de 45 ans. Passion de 70 ans. Passion de 80. Oui, terrain volcanique. Et le terrain volcanique fait que à chaque moment, la passion est différente. Et vous savez cette histoire de ce volcan qui s'est passé au Zaïre il y a quelques années. C'était tellement joli ça. Ce volcan qui commençait à fumer, alors on l'observait. Il y avait des observateurs scientifiques gradés qui observaient. C'était tout en haut. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? C'est que le volcan a craché, non pas par le cratère. Il n'a pas été obéissant. Il a craché sur le côté. Moi, je trouve ça une image merveilleuse. Les gens prudents, ils observent bien, là. Hein ? Puis, vite. Alors ils étaient espérés. chez vous, vous ne pouvez pas descendre. Ces observateurs, qu'est-ce qu'ils ont observé? Tout le monde a vu avant eux. C'est une image merveilleuse d'une prudence aveugle. Et la prudence aveugle, c'est quand la prudence est pour la prudence. Et que la prudence n'est pas pour l'éveil et l'exercice parfait de l'amour. Vous savez, on vit quelque chose de très très grand si on veut le vivre. On vit quelque chose de très grand parce qu'on est obligé d'être dans un réalisme absolu, surtout quand il s'agit d'amour. Et savoir qu'en nous, il y a cet élément passionnel, il y a l'élément instinctif. Il y a l'instinct du boire, du manger, il y a l'instinct sexuel, on le sait bien, on se connaît. C'est grand. Parce que c'est une force, héros, une force qui peut être orientée vers quelque chose encore plus grand. L'amour spirituel. Un véritable ami doit être fort. Et donc il faut que toutes ces forces soient mobilisées pour ça. Et c'est la grandeur. Justement, de l'amour d'amitié quand il est vécu de cette manière-là. Alors, vous voyez, cette question m'a pris, mais elle est importante. Et elle montre combien c'est... La vérité et la sincérité. Être lucide dans l'amour. Sur quelqu'un et savoir si cet amour est mesuré par l'ami ou si c'est nous-mêmes qui le mesurons. Alors il y a encore la vérité dans l'art. Ce serait très important de regarder ça, surtout aujourd'hui. Et c'est pas commode parce qu'on a l'impression que dans l'art, la mesure. C'est la subjectivité transcendantale. L'artiste aimait de faire ce qu'il veut. Et pas du tout. L'artiste n'est pas maître du tout de faire ce qu'il veut. Les grands artistes le savent. Et ceux qui peignent par instinct, ceci est différent. Parce qu'on a été très loin, c'est pas dans cet art instinctif. Alors la queue du cheval pouvait peindre. Ça allait n'importe comment. Et ça faisait un tableau étonnant. Et tout le monde cherchait la signification. Il n'y en avait pas. Donc on a jugé indéfiniment. Qu'est-ce que ça exprimait? Et c'est vrai. Vous pouvez voir dans une tâche. Jeter des tâches comme ça. Oui, vous pouvez chercher. C'est intéressant. J'aime mieux chercher autre part, moi, la signification des choses. L'art est une œuvre de l'intelligence. Et de l'intelligence poétique. Et donc, toute œuvre d'art est intelligente. Et non pas le fruit du hasard. Et non pas le fruit du caprice. Et non pas le fruit de la fantaisie. Et non pas le fruit de la mode. Tout ça passe très très vite, vous savez, la mode. 3 mois. De vrai, c'est une autre mode. Parce que l'été ne dure pas longtemps. Et le printemps non plus. Et l'automne non plus. Et l'hiver non plus. Donc ça passe très vite. Alors, il faut comprendre que l'art est une œuvre de l'homme. Je n'identifie pas l'artiste et l'homme. Mais c'est une œuvre de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a la capacité d'aimer l'autre. Et puis, il y a la capacité de réaliser quelque chose. Et tout homme a besoin de réaliser quelque chose. Tous. Parce qu'on est tous plus ou moins artistes. Alors, il faut trouver son job artistique. C'est pour ça qu'il est bon pour des étudiants de philosophie de leur demander de réaliser une petite dissertation C'est leur petit chef-d'œuvre. Quelquefois c'est génial. Quelquefois pas très. On le dit pas. On s'en apercevra quand on l'aura dépassé. Mais on a tous besoin de faire quelque chose. Faire la cuisine, c'est quand même une œuvre d'art. D'être un cuisinier. Parce qu'un cuisinier qui empoisonne son public, hein, les dents des petits-fils en sont empoisonnées. Alors c'est très très grave. Et c'est quelque chose, évidemment c'est pas tout, mais c'est quelque chose. Vous voyez, l'art, l'œuvre d'art, l'œuvre artisanale est liée à l'homme de façon très très forte. Dieu a eu cette magnanimité, cette grandeur de ne pas achever son univers pour laisser à l'homme une matière indéterminée que l'homme peut achever, compléter. Et c'est dans ce sens-là que l'art artisanal et l'art tout court, c'est toujours un achèvement de la création. Voyez les grands mythes qui montrent le point de vue de l'art. Prométhée, dans Platon, c'est le feu. L'artiste, il est celui qui capte le feu. C'est très très beau ça, parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'artiste, ce que c'est que l'art. Il capte le feu, Prométhée, c'est ça. Alors pour l'interpréter d'une façon communiste, vous l'interprétez d'une façon beaucoup plus grande, et telle que Prométhée l'a vu. Le feu, c'est l'élément suprême de notre univers qui permet à l'intelligence humaine de dominer. Si on n'avait pas capté le feu, on ne dominerait rien. Et alors, il y a dans l'art un aspect de domination, et il y a dans l'art un aspect d'expression. Et il y a toujours les deux. Et il y a un équilibre entre les deux. L'expression, c'est l'intelligence. La domination, c'est la volonté. C'est pour ça que l'œuvre d'art implique l'aspect volonté.